Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 70 ans aujourd'hui, le 18 avril 1951, était signé le traité de Paris instituant la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, l'ancêtre de la Communauté Européenne Économique Européenne pardon, et de l'Union Européenne. Nous sommes en compagnie de Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po, auteur des livres Le Pays des Européens, publié chez Odile Jacob, coécrit avec Jacques Lévy, et de L'Histoire de la Construction de l'Europe depuis 1945, publié chez PUF. Il est par ailleurs lauréat du prix de l'Initiative Européenne 2018 et du prix du livre Mieux comprendre l'Europe 2018. Sylvain Kahn, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire du traité de Paris, mais ce traité a un autre traité qui l'a précédé dans l'immédiate après-guerre, le traité de Bruxelles. Est-ce une évolution qui était prévue ?
Non, c'est un peu deux choses parallèles, parce que le traité de Bruxelles, c'est plutôt l'ancêtre de l'OTAN, en fait, le traité de Bruxelles. Donc, il faut bien voir que juste sortir de la Seconde Guerre mondiale, hein, y a comme ça dans l'air l'idée que on va tourner la page, hein, d'une espèce de grande guerre civile qui a duré de 1914 à 1945. Et par conséquent, il y a plusieurs idées d'Europe en même temps. Voilà. Et donc, le traité de Bruxelles, si vous voulez, c'est l'idée d'une Europe de la défense, pour dire les choses très rapidement, qui devrait se faire d'ailleurs, espère-t-on, à l'époque avec les États-Unis, ce qui va se faire ensuite avec l'OTAN, et puis le traité sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est plutôt d'une Europe du redressement économique. Voilà.
Alors justement, il y a aussi la déclaration Schuman du 9 mai 1950.
Alors évidemment, la déclaration Schuman du 9 mai 1950, alors elle est considérée comme, l'espèce de lancement inaugural de la construction européenne. Vous avez rappelé tout à l'heure que la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est la concrétisation de la fameuse déclaration de Schuman le 9 mai 1950, cette CECA, c'est l'ancêtre de la Communauté économique européenne, qui est elle-même l'ancêtre de l'Union européenne. Voilà. Alors donc, vous le savez, hein, bien sûr, tous vos auditeurs le savent, le 9 mai, maintenant, c'est considéré comme la journée de l'Europe. Alors, ce n'est pas encore un jour férié, hein, mais ça viendra peut-être.
Surtout que si le 8 mai est férié, ça fera deux jours de suite.
Le voilà, c'est ça. Ça fera un vrai viaduc.
Oh, c'est ça. Le traité regroupe six pays, la France, la RFA, l'Italie et les trois pays du Benelux. Comment est-ce que la RFA a pu joindre ces cinq pays si rapidement alors qu'elle n'est née que 23 mois avant, le 23 mai 49, puisque jusqu'au 23 mai 49, elle était divisée en zones d'occupation ?
Alors, pourquoi il y a la République fédérale d'Allemagne, qu'on appelait l'Allemagne de l'Ouest, hein. Alors, tous ceux qui ont plus de 40 ans se rappellent oui. De la fameuse Allemagne de l'Ouest, notamment parce que c'était quand même l'ancêtre de la Mannschaft, la meilleure équipe de foot d'Europe et probablement du monde dans les années 70. Mais, et d'ailleurs, hein, on se rappelle aussi que dès les années 50, hein, dès le tout début des années 50, l'Allemagne gagne déjà une première Coupe du Monde.
54.
Voilà, c'est pas rien hein, en Suisse. C'est pas rien l'Allemagne de l'Ouest. Bon, mais effectivement, son nom officiel, c'est RFA. Et juste en passant, le nom officiel de l'Allemagne aujourd'hui, c'est toujours RFA. Hein, c'est toujours République fédérale d'Allemagne. Alors effectivement, pourquoi est-ce que la RFA rentre si vite dans la construction communautaire ? Mais justement, vous voyez, en fait, Philippe David, on peut dire qu'on a fait en partie la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour intégrer l'Allemagne de l'Ouest dans une... disons, dans une association européenne solidaire. Parce que la grande peur des dirigeants français, des syndicalistes français, du patronat français de l'époque, d'une partie des salariés français, c'était que l'Allemagne se redresse si vite que du coup, la France se retrouve à nouveau en position, disons, un petit peu inférieure, hein, pour dire les choses rapidement. Mais, et deuxièmement, la France avait besoin, comme tous les pays d'Europe, de beaucoup de charbon. Or, les meilleurs gisements de charbon et les meilleures mines de charbon, c'était en Allemagne, en particulier dans la Ruhr. Hein. Il faut quand même bien voir qu'à l'époque, 70% du charbon mondial est consommé en Europe. Donc, il y a l'idée économique, il y a l'idée géopolitique, et puis il y a enfin l'idée militaire, c'est-à-dire qu'avec... la division de l'Europe en deux grands blocs dans une guerre froide, avec un impérialisme soviétique qui, disons, est à l'époque considéré comme très menaçant, il y a quand même l'idée qu'il faut faire en sorte, un, que la RFA ne bascule pas dans l'orbite soviétique et dans l'envie de devenir un pays communiste comme la RDA, qui est devenue par la force, par ailleurs. Et deuxièmement, il y a l'idée que ça serait quand même bien qu'il y ait une espèce de front militaire et de défense qui ne passe pas par la frontière franco-allemande, mais plutôt par la frontière entre les deux Allemagnes. Donc, pour toutes ces raisons, hein, les États-Unis, les Français, les Italiens, les Bénéluxiens et même les Britanniques pensent que c'est bien d'essayer de trouver une association européenne économique qui permette que le charbon, la sidérurgie soient finalement mutualisés pour que les Français puissent bénéficier du charbon allemand sans que les Allemands aient l'impression qu'on les opprime et qu'on les exploite.
Voilà. Mais, justement, vous avez dit une chose très intéressante. Vous avez parlé de l'Arour. Ce traité concerne avant tout le charbon et l'acier. Comment peut-il être signé alors que le contentieux territorial de la Sarre entre la France et la RFA n'est pas réglé et que la Sarre est la seconde région productrice de charbon et une grosse région productrice d'acier allemande?
Bien sûr. Parce que en fait, y avait deux, on peut dire, il y avait deux sujets territoriaux franco-allemands. D'accord ? Il y avait la Sarre, comme vous le dites, et la Sarre, effectivement, a été, disons, rattachée à la France du point de vue économique. Okay ? Les Français voulaient même qu'elle soit rattachée à la France du point de vue politique. Hein. On rappelle que la Sarre, c'est cette toute petite région frontalière et du Luxembourg et de la France et de la Belgique hein, que les Lorrains connaissent bien et où il y a d'ailleurs encore beaucoup de gens qui sont francophones. Mais finalement, les Sarrois, il y a eu un traité, il a fallu s'entendre et il y a eu un référendum et les Sarrois ont rejeté, hein, en 1957, je crois, ont rejeté, disons, un traité par lequel il serait une espèce de région autonome rattachée à la France. Voilà. Bon, donc, mais la Sarre, en 1950, on laisse ça de côté parce que le gros problème, comme vous l'avez rappelé, Philippe David, c'est la Ruhr. Parce que la Ruhr, donc, c'est vraiment le poumon économique de la République fédérale d'Allemagne. Et à ce moment-là, en 1950, elle est en fait économiquement régie par une autorité internationale. D'accord ? C'est-à-dire que les Allemands disent, mais écoutez, nous, OK, il y a eu des choses terribles pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été causée par le régime nazi. Le régime nazi est arrivé au pouvoir parce que les Allemands l'ont quand même élu. Mais maintenant, cette page, on est en train de la tourner. On dénazifie. Le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, il s'appelle Konrad Adenauer, c'était un opposant au nazisme, un grand chrétien démocrate. Donc, il dit, écoutez, nous, on aspire à une chose, c'est à revenir dans la communauté des pays européens, libéraux, des Lumières. Mais pour ça, ne faites pas comme en 1918, hein, ne nous imposez pas une tutelle. Voilà, ça, c'est ce que demandaient les Allemands. Et c'est vrai que c'était plutôt malin. Et les Français disaient, OK, on comprend bien, on ne veut pas vous mettre sous tutelle, mais on veut des garanties. Hein, parce que nous, on a quand même peur que il se repasse la même chose, d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, la Ruhr, on va retirer l'autorité internationale, qui est une espèce de chapeau, si vous voulez, un peu contraignant, qui est imposé aux Allemands, et on va créer cette communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est une autorité supranationale, hein, avec une haute autorité, où il y a des règles qui s'appliquent à tous, aux Allemands, aux Français, aux Belges, aux Hollandais, aux Luxembourgeois, aux Italiens. On a même proposé aux Britanniques de rentrer, mais les Britanniques n'ont pas voulu, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Et du coup, les Allemands ont pu dire, OK, ce n'est pas une autorité internationale de tutelle, mais finalement, on est tous sur un pied d'égalité pour mutualiser nos territoires de production de charbon et de sidérurgie. Et on a créé un marché commun qui permettait de baisser les prix, qui permettait d'avoir des normes salariales, de sécurité au travail, de santé au travail qui soit à la fois harmonisée et tirée vers le haut. Et finalement, c'était on va dire une astuce acceptable qui permettait à chacun qui avait des intérêts divergents de converger dans un processus de gagnant-gagnant. C'était ça, la CECA.
Allez, en 30 secondes, dernière question. Moins de 6 ans plus tard, le 25 mars 57, c'est la signature du traité de Rome qui fonde la CEE avec ces mêmes pays. C'était la suite inéluctable, prévue ?
Ce n'était pas du tout inéluctable, hein, parce qu'il y avait des gros débats. Hein, il y a des gens qui voulaient plus d'Europe, d'autres qui voulaient moins d'Europe. Les gaullistes et les communistes, ou même les socialistes en Allemagne, voulaient carrément que ça s'arrête. Donc, ce n'était pas inéluctable, mais c'était dans la logique. C'est-à-dire que si on voulait continuer l'Europe, Eh ben, en fait, on a dit, on a déjà fait un marché commun pour le charbon et pour l'acier. Pourquoi ne pas le faire pour tout ce qu'on fabrique? Comme ça, au moins, on bénéficiera tous d'un marché plus grand pour les producteurs et de prix plus bas pour les consommateurs. Et puis, on est sûr qu'on ne se fera pas la guerre, on ne sera pas en rivalité, puisqu'on aura tous une espèce d'espace de production, de consommation et de construction commun. Voilà.
Merci beaucoup Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po, auteur des livres Le Pays des Européens, publié chez Odile Jacob, coécrit avec Jacques Lévy, et de l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945. Je rappelle que vous êtes également lauréat du prix de l'initiative européenne et du prix du livre Mieux comprendre l'Europe en 2018.